Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce jeudi 3 juillet. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal, les sports et comme chaque jeudi, le journal de l'économie. Et les grands titres du journal de ce jeudi, les processus actuels concernant le travail avec les enfants font partie des politiques en cours de révision, alors que les gouvernements des États et le gouvernement fédéral accélèrent les réformes du secteur de la garde d'enfants après l'arrestation d'un travailleur accusé de 70 infractions présumées liées à des agressions sexuelles sur les enfants. Les clients de Qantas sont invités à rester vigilants suite à l'une des pires cyberattaques depuis des mois. Les données d'environ 6 millions de clients ont été divulguées suite à un incident informatique sur une plateforme tierce utilisée par la compagnie aérienne. Des milliers de personnes sont toujours privées d'électricité sur la côte est de l'Australie après qu'un violent système de météo a déraciné des arbres et a mené à l'érosion des plages. Et on passe au journal de ce jeudi. Les clients de Qantas sont invités à rester vigilants suite à l'une des pires cyberattaques depuis des mois. Les données d'environ 6 millions de clients ont été divulguées suite à un incident informatique sur une plateforme tierce utilisée par la compagnie aérienne. Les informations divulguées comprendraient les noms, numéros de téléphone, date de naissance et adresse email. Qantas rassure ses clients, aucune information financière, aucun numéro de passeport, aucune information de carte de crédit, ni aucun code PIN de demande de voyageurs n'ont été consultés lors de cette fuite. Des milliers de personnes sont toujours privées d'électricité sur la côte est de l'Australie après qu'un violent système de météo a déraciné des arbres et a mené à l'érosion des plages. Propulsé par une dépression vigoureuse sur la côte est, les prévisions du bureau de la météo prévoient que les pluies torrentielles atteindront la mer de Tasman ce jeudi. S'exprimant lors de l'émission Today de Channel 9, la commissaire adjointe du SIS, Debbie Platts, a déclaré que les fortes pluies avaient cessé, mais que la tempête n'était pas encore terminée.
What we do have is still 32 warnings that are active, and these are for damaging winds, and that's for the whole coastal fringe from the Northern Rivers right down to Bega, also up into the Tablelands and around Tenterfield. We still, though, also have some watch points for flooding. So the low-lying areas, in particular around North Richmond, so that's the Hawkesbury Nepean Valley area, and also low-lying areas in Tamworth around the Peel River. So we'll be keeping a close eye on those.
Jacinta Allan, la première de l'État du Victoria, a annoncé que l'État allait accélérer la réforme du secteur de la petite enfance. Cette annonce fait suite à l'arrestation d'un éducateur accusé de 70 infractions présumées liées à des agressions sexuelles sur mineurs. Plus de 1200 enfants seront désormais soumis à des tests de dépistage de maladies infectieuses suite à la publication des accusations. Le ministre fédéral de l'Éducation, Jason Clark, a déclaré vouloir que le gouvernement ait le pouvoir de supprimer le financement des garderies ne respectant pas les normes de sécurité. La première de l'État du Victoria, Jacinta Allan, a déclaré que l'État allait mettre en œuvre plusieurs réformes, notamment l'interdiction des appareils mobiles personnels dans les garderies à partir du 26 septembre prochain, sous peine d'amende pouvant aller jusqu'à 50 000 $ en cas de non-respect. Elle a indiqué que le gouvernement de l'État allait également commandé une étude urgente sur la sécurité des services de garde d'enfants et commencé à travailler sur un registre national des éducateurs de jeunes enfants. La procureure générale Michelle Rowland a indiqué que les réformes porteront également sur le processus actuel de vérification des antécédents judiciaires des personnes après que la police du Victoria a révélé que l'homme accusé des infractions avait un casier judiciaire valide.
Even last week, prior to the Education Minister's meeting, I've been engaging with my colleague Minister Jason Clare to ensure that we have some harmonisation of this scheme at a national level. It's one that has been called for a long time, and it's one that we are deeply committed to ensuring happens for the safety of children.
Les organisations autochtones saluent les appels de la Commission de justice UROC en faveur d'une indemnisation des Premières Nations du Victoria sous forme de traité. Le rapport final de cette enquête de 4 ans a révélé que plusieurs crimes graves avaient été commis pendant la colonisation de l'État du Victoria, notamment des massacres, des maladies, des violences sexuelles, la disparition de langues, l'effacement culturel, la dégradation de l'environnement et l'enlèvement d'enfants de leurs parents. Les conclusions s'accompagnaient de 100 recommandations, notamment des réparations sous forme d'indemnisation financière, d'allègements fiscaux et de restitution des terres, des eaux et des ressources traditionnelles. Jill Gallagher est la directrice générale de l'organisation de santé qui est contrôlée par la communauté aborigène du Victoria. Elle a déclaré sur SBS NITV que les réparations reconnaissent les inégalités économiques causées par la colonisation ainsi que d'autres dommages et traumatismes persistants.
We don't have access to the bank of mum and dad to help us with a good start in life. Because when our ancestors, and when I say ancestors, I don't mean 3 or 4 generations ago. My mum is still alive and she lived on a mission here in Victoria. And she was not allowed to own property. She was not allowed to create wealth for her family.
Le gouvernement du Victoria déclare qu'il prendra en compte toutes les recommandations du rapport final. La première, Jacinta Allen, a déclaré que même si aucune recommandation n'avait été exclue, l'examen du rapport par le gouvernement nécessite du temps. La sénatrice indépendante Lydia Thorpe a salué la reconnaissance par la commission des actes génocidaires et a appelé le gouvernement fédéral à agir d'urgence.
For a report such as the truth-telling of the Uruk Commission's inquiry to come out and say categorically that genocide has been committed is an acknowledgement, and it's part of a pathway of what we should be doing going forward to stop the genocide and the crimes against humanity that continue to happen.
L'administration Trump a exprimé ses regrets concernant le départ prématuré du président américain du sommet du G7 sans avoir rencontré le premier ministre australien Anthony Albanese. Anthony Albanese a été critiqué par la coalition pour ne pas avoir rencontré en personne le président américain depuis sa victoire électorale. La ministre des Affaires étrangères Penny Wong, actuellement aux États-Unis pour une réunion du Quad entre les États-Unis, l'Australie, l'Inde et le Japon, a déclaré avoir évoqué une future rencontre entre les deux dirigeants lors de ses entretiens avec Marco Rubio, le secrétaire américain aux affaires étrangères.
He expressed his regret for the fact that the meeting had to be rescheduled. And I obviously said, well, we completely understood. I think the world understood. The president had a fair bit to do ahead of what was, given what was occurring in the Middle East. We are working together on rescheduling the meeting. We're both looking forward to the president and the prime minister meeting.
La prochaine étape de la réforme du secteur universitaire australien a progressé avec la création d'un organisme indépendant, la Commission australienne intérimaire de l'enseignement supérieur. La législation devrait être en vigueur d'ici l'année prochaine pour établir définitivement la commission chargée d'améliorer l'accès des Australiens, des Premières Nations et des personnes issues de milieux socio-économiques défavorisés. Le ministre fédéral de l'Éducation, Jason Clare, affirme que le système système de l'éducation doit être réformé afin de mieux répondre aux besoins des travailleurs qualifiés.
But overall, we've seen a decline in the number of Aussies enrolling in uni degrees until last year, when it jumped up, and now it's jumping up again this year. It's not just people leaping out of school to study at university, it's also people going back to uni to reskill, to upskill, to get more skills. So that's a good sign. But the university's accord is about building on that and what more we need to do to support more people into university and into TAFE.
Le Hamas affirme examiner une proposition que le président américain Donald Trump qualifie de finale de cessez-le-feu pour Gaza. Le président américain affirme qu'Israël a accepté les conditions nécessaires à la finalisation d'un cessez-le-feu de 60 jours, mais le Hamas affirme que cet accord doit garantir la fin de la guerre et le retrait israélien de Gaza. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme que le Hamas doit être totalement désarmé et expulsé de la bande de Gaza avant qu'Israël ne mette fin à son agression. Une source proche du Hamas indique que ses dirigeants devraient débattre de la proposition et demander des éclaircissements aux médiateurs avant de donner une réponse officielle. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés a cité plus de 60 entreprises dans un rapport les accusant de soutenir les colonies israéliennes ou les actions militaires à Gaza. Francesca Albanese a appelé ces entreprises à cesser leurs relations avec Israël et à traduire en justice les dirigeants impliqués dans des violations présumées du droit international. Ces entreprises comprennent les fabricants d'armes Lockheed Martin, Leonardo, les fournisseurs d'équipements lourds Caterpillar Incorporation et HD Hyundai, ainsi que diverses entreprises technologiques. Un porte-parole de Lockheed Martin a adressé ses questions sur les ventes d'armes au gouvernement américain. Les autres entreprises n'ont pas répondu aux questions. La mission israélienne à Genève a qualifié le rapport de, je cite, « dénué de tout fondement juridique, diffamatoire et d'abus flagrant de la fonction du rapporteur spécial des Nations Unies ». Le président iranien Massoud Pezeshkian a approuvé une loi suspendant la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cette mesure avait déjà été approuvée par le Parlement la semaine dernière, au lendemain du cessez-le-feu avec Israël. L'Iran et ses installations nucléaires ont été attaquées par Israël et les États-Unis ces dernières semaines, ce qui a conduit le ministère iranien des Affaires étrangères a décidé qu'il ne pouvait pas maintenir sa coopération habituelle avec l'AIEA, affirmant que la sécurité des inspecteurs était désormais menacée. Un responsable militaire ukrainien affirme que les forces russes ont effectué des incursions près de deux villes clés pour les voies d'approvisionnement de l'armée russe dans l'est de l'Ukraine. Et puis une frappe de drone russe a touché le centre de Kharkiv, incendiant un bâtiment. Jusqu'à présent, les efforts du président américain Donald Trump pour parvenir à un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine ont échoué. La Maison-Blanche a annoncé en début de semaine la suspension de certaines livraisons d'armes importantes promises par l'ancienne administration Biden à Kiev. La porte-parole du département d'État américain, Tammy Bruce, a déclaré que cela ne signifiait pas la fin du soutien militaire américain à l'Ukraine. Sean P. D. Coombs a été reconnu non coupable de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs, les accusations les plus importantes portées contre lui, mais il est déclaré coupable de transport de personnes à des fins de prostitution. Douglas Wigdor est l'avocat de Cassie Ventura, une ancienne petite amie de Coombs qui a témoigné devant le tribunal.
The reaction is that we're pleased that he's finally been held responsible for two federal crimes, something that he's never faced in his life. He still faces substantial jail time. Of course, we would have liked to have seen a conviction on the sex crimes in RICO, but we understand beyond a reasonable doubt is a high standard.
On passe à la météo pour ce jeudi en Australie. À Perth, il fera 21 degrés. Adélaïde, 17. Melbourne, 15. Hobart, 13. Canberra, 14. Sydney, 18. Brisbane, 20. Darwin, 30. Et à Alice Springs, maximale de 26 degrés. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. 13h16 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français et c'est l'heure du journal des sports et vous êtes en compagnie de Marianne Murat.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal des sports de ce jeudi 3 juillet 2025. On commence avec du football et on connaît l'affiche complète des quarts de finale du Mondial des clubs aux États-Unis. Olivier Pron, Radio France Internationale.
5 Européens, 2 Brésiliens, 1 Saoudien, c'est le top 8 de la compétition, Andréane. Cette nuit, qualification du Real Madrid 1-0 dépend de la Juventus Turin, but de Garcia en début de deuxième période et entrée en jeu ensuite de Kylian Mbappé, remis de son virus. Prochain adversaire des Merengues, avec Mbappé donc, Dortmund qui s'est débarrassé des Mexicains de Monterrey 2-1 grâce à un doublé du Guinéen Serhou Guirassy. Real Dortmund, dernier quart, ce sera samedi 20h temps universel à New York. Les 3 autres, vendredi 19h, Fluminense face au Al Hilal de Kalidou Koulibaly le Sénégalais. Samedi 1h, temps universel à Philadelphie, Palmeiras, Chelsea. Enfin à 16h, toujours samedi, PSG Bayern à Atlanta.
S'ils parviennent à éliminer le Bayern ce week-end à Atlanta, les joueurs de Luis Enrique croiseront ensuite soit le Real Madrid, soit Borussia Dortmund en demi-finale. 8 clubs en quart, donc on le rappelle, 5 Européens, Chelsea, Bayern Munich, PSG, Real Madrid et Borussia Dortmund. À cela s'ajoutent 2 équipes brésiliennes, Palmeiras et Fluminense, et une saoudienne, Al Hilal. On vous parlait de Paul Pogba qui revenait en France et signé en Ligue 1 avec Monaco. Eh bien, c'est le cas également de Olivier Giroud, le champion du monde 2018, vient de signer avec Lille pour 1 an, 13 ans après avoir quitté le foot français. Les précisions signées Babacar Diarra, RFI.
L'attaquant de 38 ans a été présenté par son nouveau club, le LOSC Lille, où il a signé un contrat d'une saison. Il met ainsi fin à son aventure américaine, contrastée avec le maillot du Los Angeles Football Club, une aventure qui n'aura duré qu'une année. Lors de sa conférence de presse de présentation, l'ancien joueur de Chelsea, d'Arsenal ou encore de l'AC Milan s'est dit emballé par le projet du club lillois.
J'ai tout de suite été séduit par le projet lillois. Le fait de revenir en France après 13 ans, c'est une chance et un défi incroyable pour moi. Je sens que je peux apporter. Alors, à quel niveau et dans quelle mesure, je ne sais pas. Mais faire le maximum. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce projet sportif qui m'a séduit, parce que je pense pouvoir être utile.
Le néo-lillois Olivier Giroud, dont le retour en France ne cache pas des intentions de retour en équipe de France, il a assuré que pour lui, la place est désormais aux jeunes chez les Bleus. Et puis notez que selon les informations de l'équipe, l'ex-attaquant lillois Jonathan David a trouvé un nouveau point de chute. Le Canadien, libre de tout contrat depuis fin juin, devrait découvrir la Serie A italienne sous les couleurs de la Juventus de Turin.
On continue l'actualité autour du ballon rond avec le début de l'Euro de football féminin. C'est la Suisse qui accueille l'événement et pour son match d'ouverture, eh bien défaite des hôtes 2-1 contre la Norvège. Défaite également de la Finlande face à l'Islande 1-0. Les Françaises affronteront les Anglaises ce week-end, Babacar Diarra.
Les Françaises sont-elles à J-3 avec en fil rouge l'inquiétude autour de l'une des cadres, la milieu de terrain Grijmbok. La joueuse du Paris Saint-Germain est touchée au mollet depuis une semaine et aujourd'hui, elle n'était pas à l'entraînement, restant plutôt à l'hôtel pour recevoir des soins.
7 euros, c'est l'occasion de nous intéresser au foot féminin et à son économie. Le secteur est en pleine expansion, comme l'explique Stéphane Geneste au micro de Andréane Mellard pour RFI.
Il connaît une croissance économique pour le moins impressionnante. D'après le cabinet Deloitte, le marché mondial du sport féminin professionnel en général devrait atteindre 2,35 milliards de dollars cette année. Le foot féminin, lui, ne représente qu'un tiers de cette dynamique, mais il reste un moteur essentiel du secteur, surtout, Andréane, il attire les investisseurs et les grandes marques.
Et ça se voit très concrètement, Stéphane, avec l'Euro 2025.
Preuve en est, le budget de l'événement a littéralement explosé. Il était d'un peu plus de 12 millions d'euros seulement en 2017. Cette année, il s'élève à 128 millions, c'est 10 fois plus en seulement 8 ans. Plus significatif encore, la dotation financière pour l'équipe gagnante, elle a été multipliée par 5 depuis 2017. Et ce qui frappe, c'est la diversification des revenus. À présent, ils proviennent principalement du sponsoring et des partenariats. Les droits télé, eux, ne représentent finalement qu'un quart.
Pour autant, même si l'activité économique du secteur explose, on est loin du niveau atteint chez les hommes.
C'est vrai, la différence est bien là. Déjà, sur la rémunération en France, la meilleure joueuse gagne environ 19 fois moins que le meilleur joueur masculin. Autre écart important, celui concernant les revenus liés aux euros féminins et masculins. Côté femmes, 65 millions d'euros. Côté messieurs, les retombées sont de plus d'un milliard d'euros. Donc vous en voyez, on n'est pas vraiment sur les mêmes proportions. Mais les choses bougent. L'UEFA mise d'ailleurs gros 1 milliard d'euros investis dans le foot féminin d'ici la fin de la décennie, avec l'objectif de créer tout de même 5000 emplois de footballeuses professionnelles.
Et c'est ce qu'il se passe. Hein. Les clubs en tant que tels se développent. Les joueuses sont mieux payées, mieux formées. Le spectacle est là et ça fait venir les marques.
Exactement. Autre illustration donc que les voyants sont au vert pour le foot au féminin. Les sponsors répondent présents. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux, on pense notamment à Adidas, Coca-Cola, Heineken ou Lidl. Concrètement, cela veut dire que toutes ces marques voient un intérêt à investir car il y a du public devant sa télé. Les audiences télé justement qui sont toujours plus grandes, les revenus médias sont aussi en hausse et pour cette édition par rapport à 2022 d'ailleurs, ils ont pratiquement doublé. Bref, les planètes semblent être alignées pour les affaires du foot au féminin, mais les défis eux restent nombreux avec en premier lieu la création d'un modèle économique durable car ce marché évidemment est en pleine mutation et il devrait précisément atteindre sa maturité dans les prochaines années.
On poursuit avec du tennis et le tournoi de Wimbledon bien sûr et de nombreuses têtes de série déjà sorties du tournoi. Ça passe au deuxième tour pour la française Elsa Jacquemot, tombeuse de la polonaise Linette en 3-7, 6-7, 6-1, 6-4. Ça passe aussi pour Diane Paris qui accède au troisième tour. Chez les hommes, Gaël Monfils l'a emporté en 5-7 contre son compatriote Hugo Humbert. Ça passe aussi pour Adrienne Manarino mais donc pas pour son compatriote Valentin Royer. Mais le vrai exploit français, c'est Olivier Pron qui nous le raconte.
Celui d'Arthur Rinderknecht, vainqueur en deux jours et en 5-7 du numéro 3 mondial, l'Allemand Sacha Zverev, la plus belle victoire de la carrière du Rennais, 72e dans la hiérarchie.
Je n'étais pas entièrement en contrôle parce que ce n'est pas possible de l'être face à un joueur comme Sacha Zverev qui est numéro 3 mondial. Il est si fiable, ça fait 10 ans qu'il est là. Moi, c'est ma première victoire contre un joueur du top 5. En plus, sur le plus grand cours du monde, je suis si content de le faire devant mes proches. C'est un moment incroyable pour moi et pour eux.
Et dans un tableau masculin marqué par l'élimination de 12 têtes de série sur 32, notamment 4 membres du top 10, à noter les qualifications de Novak Djokovic et des Français Corentin Moutet et Gaël Monfils. Chez les dames, sortie de route prématurée de cours en l'occurrence pour la lauréate de Roland-Garros, l'américaine Coco Gauff.
La troisième mondiale, Jessica Pegula, est également déjà hors de jeu. Taylor Fritz, lui, reste dans la compétition, mais il s'en est fallu de peu. Il s'est finalement défait de Giovanni Pecci-Péricard. Pour son deuxième match, Arthur Rinderknecht, on parlait de lui à l'instant, eh bien il affronte Garin. Et pour la deuxième fois de suite, il voit son match suspendu. Il mène actuellement 2-7 à 1. La suite, ce sera donc demain. Élimination de Benjamin Bonzi face à l'Australien Thompson en 5-7. Et on attend aussi l'autre match franco-australien, Alex de Minaur, Arthur Cazaux, pour une place au troisième tour. Et enfin du cyclisme, J-2 avant le début du Tour de France. C'est la 112e édition du 5 au 27 juillet. Notre collègue Christophe Mallet est sur place comme tous les ans. Il va suivre les coureurs pendant 3 semaines et nous faire vivre la course au plus près. Les résultats, les coulisses, les extras. Il est déjà sur place. Christophe, bonjour. J-2, hein, donc.
Tout le monde du cyclisme se regroupe à Lille dans les prochaines heures. C'est la journée cruciale. Le début donc de ce Tour de France qui aura lieu samedi se prépare d'ores et déjà pour les équipes et pour les coureurs. C'est très important de s'acclimater aux conditions. Alors c'est vrai que ce jeudi il a plu énormément d'ailleurs sur l'île, ce qui devrait rafraîchir un peu les idées à tout le monde puisqu'il a fait assez chaud ces derniers jours. On ne prévoit pas forcément de pluie samedi, mais il y aura peut-être de la pluie dimanche. Alors les grosses attentes de ce Tour de France, c'est bien entendu la forme de Tadej Pogacar, la forme de Jonas Vingegaard, la forme de Remco Evenepoel. Ça c'est pour les trois favoris. Et quid des Français, que pourront-ils faire sur ce Tour de France? Quelques étapes par-ci, par-là, très probablement, et peut-être aussi un espoir de voir quelqu'un comme Julien Alaphilippe briller peut-être pour une dernière fois sur les routes françaises. Donc il y a encore plein de questions qui pourront trouver leur réponse à partir de samedi, et bien entendu à l'antenne de SBS. Je vous invite également à suivre notre podcast SBS Cycling qui sera là tous les jours du Tour de France. Et voilà, le monde du vélo, le monde du cyclisme se prépare en ce moment à Lille avec demain la présentation des équipes. On saura exactement qui sera là sur ce Tour de France.
Voilà, c'était Christophe Mallet en direct du Tour de France qui commence dans 2 jours, le samedi 5 juillet. Messieurs, dames, c'est la fin de ce journal des sports. Merci beaucoup de l'avoir suivi.
13h et bientôt 30 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. C'est jeudi et on passe au journal de l'économie et vous êtes en compagnie de Marianne Murat et de Nicolas Perpich.
On passe à la chronique économie avec le retour sur nos ondes de Nicolas Perpich. Bonjour Nicolas.
Bonjour Marianne.
On va parler de la superannuation, donc la retraite australienne. Et à partir de cette semaine, eh bien, le taux de superannuation obligatoire payé par les employeurs est monté à 12%, Nicolas.
Oui, voilà, tout à fait. Et on a un système assez intéressant ici, un système de superannuation obligatoire comme ça, payé par les employeurs, qui date de très longtemps, en fait de l'époque de l'ancien trésorier et l'ancien premier ministre Paul Keating, donc les années 90, début des années 90, c'est lui en fait qui avait eu cette idée et qui avait mis ça en place. Et au tout début, cette contribution des employeurs, c'était seulement à 3%. Ça a monté chaque année par 1,5%. Jusqu'à maintenant, on arrive donc à 12%, ce qui est très important. Il n'y a pas trop d'autres pays avec un système comme ça. Et en fait, ça veut dire que bientôt, l'Australie aura la deuxième plus grande réserve de superannuation au monde, après les États-Unis. Qui est bien sûr une économie bien, bien plus grande. Donc les réserves sont énormes. Ça veut dire que les gens, une fois qu'ils prennent la retraite, sont plus capables de vivre sans l'aide du gouvernement. Et donc ça met moins de pression sur le budget ici en Australie.
Sur le papier, c'est une bonne idée. Et pour que nos auditeurs y comprennent bien, sur quelqu'un qui gagne environ 60 000 dollars à l'année, cette augmentation, c'est quand même 300 dollars de plus chaque année. Et pour quelqu'un qui touche environ 100 000 dollars par an, c'est une augmentation de 500 dollars sur la superannuation. Mais Nicolas, est-ce que c'est une fausse bonne nouvelle ? On voit bien que le gouvernement essaie de mettre en place des choses pour que ça se passe mieux et qu'on ait plus d'argent. Mais la superannuation augmente, mais le coût de la retraite augmente aussi avec les années.
Oui, bien sûr, comme le coût de la vie. Ça dépend un peu dans quelle situation on se retrouve à la retraite. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle ici en Australie les self-funded retirees. C'est des gens qui ont gagné assez d'argent, qui ont assez de superannuation, qui ne dépendent pas du tout de la pension, la retraite du gouvernement. Donc, si on est un self-funded retiree et on a déjà payé tous les dettes qu'on a sur la maison, etc., ben on peut se retrouver dans une situation pas trop mal. Ça va faire la différence en qualité de vie à la retraite, ça c'est sûr.
Merci beaucoup Nicolas. On va aborder un deuxième thème qui lui aussi sur le papier est une bonne idée mais on va le nuancer. C'est la valeur des maisons en Australie qui a grandi pour le cinquième mois de suite.
Ça baisse assez rarement la valeur des maisons, il faut dire, en Australie. Et là on a vu que ça fait 5 mois de suite que ça grimpe. Là, 1,4% de plus pour les 3 derniers mois. Dans les 12 derniers mois, autour du pays, la valeur des maisons est montée par 3,4%. Ça veut dire que qu'en moyenne, une maison coûte 836 000 dollars ici en Australie, ce qui est beaucoup. Ça veut dire que c'est de moins en moins abordable. Et si on regarde un peu le terrain économique ici, c'est plus ou moins assuré que la Banque centrale va couper le taux d'intérêt en juillet. Et ça aura un impact assez intéressant parce que, bon, la croissance économique est assez lente. L'inflation est moins importante en ce moment. Mais ça veut dire que les gens auront un peu plus d'argent dans la poche. Ça va peut-être stimuler encore le marché de l'immobilier et ça veut dire que le prix des maisons va encore probablement monter. Donc ça va devenir encore moins abordable, le prix des maisons ici en Australie.
Ça veut sûrement dire qu'en conséquence, à moyen terme, il y aura de moins en moins d'achats et de plus en plus de locations.
Bah oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas tellement de locations, d'appartements ou de maisons de location non plus. C'est un peu le problème, c'est que même si le marché est stimulé par la baisse du taux d'intérêt, il n'y a tout simplement pas assez de maisons en réserve ou d'appartements. Et c'est vrai que le gouvernement d'Anthony Albanese a annoncé il y a un an qu'il voulait construire 1,2 million de nouvelles maisons avant la fin de la décennie. Pour le moment,
ils vont être un peu courts.
Apparemment, c'est estimé qu'ils vont arriver à peut-être à 750 000 nouvelles maisons, donc 250 000 moins qu'ils aimeraient faire. Donc c'est énorme quand même. Selon le Property Council, il faudrait construire 60 000 nouvelles maisons tous les trois mois pour arriver à 1,2 million. Et ça, c'est sûr que on n'est pas à ce niveau ça du tout. Donc c'est vraiment ça qui fait monter le prix des maisons aussi, c'est qu'il n'y en a pas assez.
Merci beaucoup Nicolas Perpich.
Merci Marianne.
h 39 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. France 24 débarque sur SBS On Demand. SBS On Demand renforce son offre d'actualité internationale en accueillant la chaîne France 24 au format FAST, télévision en streaming gratuite financée par la publicité. Diffusée en anglais, cette chaîne d'information continue offre une perspective française sur l'actualité mondiale. Avec ce partenariat, SBS confirme sa volonté de proposer un accès gratuit, fiable et diversifié à l'information pour tous les Australiens. Diffusée en anglais, la chaîne France 24 vient enrichir l'offre d'actualité internationale de SBS en proposant un service d'information supplémentaire, fiable et ancré en France. Cette nouvelle collaboration renforce l'engagement de SBS à offrir à son public des contenus d'actualité variés, pluriels et accessibles à tous. Mandy Wicks, directrice de l'information et de l'actualité chez SBS, déclare, je cite, « Dans un monde en perpétuelle évolution, disposer d'une information claire et diversifiée sur les événements internationaux est essentiel pour mieux comprendre les incertitudes qui nous entourent. SBS News entretient depuis longtemps une relation de confiance avec France 24 et nous sommes ravis d'accueillir leur chaîne FAST sur SBS On Demand. » Cela illustre pleinement notre volonté d'offrir un accès gratuit à une pluralité de points de vue sur l'actualité mondiale. Serge Schick, directeur du développement international et des ressources commerciales de France 24, ajoute, je cite, « France 24 est fier de rejoindre les services d'information de SBS ». En plus d'un journalisme rigoureux et équilibré, notre chaîne apporte une perspective française unique sur les grands enjeux mondiaux avec des éclairages sur la culture, l'histoire, la politique et bien plus encore. La programmation de SBS News comprend déjà des bulletins quotidiens de France 24 en anglais sur sa chaîne principale et sur SBS Viceland, ainsi qu'un bulletin en français sur SBS World Watch. France 24 devient ainsi la deuxième chaîne FAST à intégrer SBS cette année, après Euronews en avril. Grâce à ces ajouts, SBS propose désormais des contenus provenant de 52 partenaires internationaux, répondant à une demande croissante pour une couverture de l'actualité mondiale disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En tant que source d'information de référence en Australie, SBS poursuit son engagement en faveur d'une programmation internationale et multiculturelle disponible en plus de 60 langues. L'arrivée de France 24 au sein de SBS On Demand s'inscrit dans une stratégie ambitieuse visant à faire de la plateforme un point d'accès unique à l'information et aux divertissements internationaux en s'appuyant sur le succès de ses chaînes FAST existantes et d'une riche bibliothèque de contenu. France 24 est une chaîne de télévision internationale d'information en continu financée par l'État français et basée à Paris. Diffusée 24 heures sur 24 en anglais, elle propose une couverture mondiale de l'actualité avec une perspective française grâce à un réseau de 200 correspondants présents dans la quasi-totalité des pays.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationale. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news. Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, on a le plaisir d'avoir Ghislain Pourbet du Festival français de Brisbane. Bonjour et bienvenue sur SBS en français.
Bonjour, merci.
Ghislain, peut-être pour commencer, présentez-vous et parlez-nous de votre rôle au sein du Festival français de Brisbane.
Eh bien, écoutez, je m'appelle Ghislain, je suis originaire du nord de la France, et Brisbane de retour à Brisbane depuis quelques années et impliqué dans l'organisation du festival. Cette année, mon rôle, c'est tout ce qui concerne l'entertainment, les animations. Et donc, avec une équipe de volontaires comme moi, on a développé des idées d'animation un petit peu originales et nouvelles pour le festival, à côté, bien sûr, d'un programme d'artistes variés de différentes origines pour avoir un programme assez complet tout au long du week-end.
Et cette année, le festival va se dérouler du 4 au 6 juillet et le festival démarre le vendredi à 16h, c'est à South Banks, Parklands. On peut s'attendre à quoi sur les 3 jours?
Alors déjà, le festival, donc, c'est un événement qui est né en 2010. À l'époque, j'étais pas là, mais il y a une poignée de Français qui ont démarré avec un petit festival français pour célébrer la culture française et fêter le 14 juillet. Les dates que vous venez d'annoncer sont les bonnes. On n'est pas au 14 juillet parce qu'on a nos amis de Sydney et de Melbourne notamment qui ont leur festival au même moment. Et comme on partage une petite partie ou d'artistes ou d'exposants, on s'est positionné sur des dates un petit peu différentes. Et donc le festival depuis 15 années, c'est avant tout un marché de commerçants. Bien sûr, il y a de la nourriture parce que ça fait partie de notre culture, de notre patrimoine. Mais il y a également plein de vendeurs d'objets, de vêtements. On a des artisans qu'on appelle qui fabriquent des choses à la main, des bijoux, des tableaux. On a des inventeurs. Enfin voilà. Donc c'est vraiment un marché assez général. On doit avoir près de 60, peut-être même un peu plus de 60 stands cette année, tout compris, en comprenant la nourriture et les produits. Le festival, c'est également, bien sûr, un bar, une buvette qui est tenue par le festival, par les volontaires du festival. Et puis, j'en parlais tout à l'heure puisque c'est mon rôle, toute une partie animation avec une grande scène, avec des artistes qui vont se succéder sur une grande scène, mais aussi avec d'autres petits points tôt d'animation. On a la chance, si vous allez voir les photos sur notre site et sur le site de South Bank, d'avoir une tour Eiffel, une vraie tour Eiffel de 12 mètres de haut qui a été installée. Donc voilà, on va essayer d'animer le site tout au long du week-end sur différents points. Et je vais quand même pas oublier nos amis du Kids Corner. Ça, c'est un lieu un petit peu à part du festival qui est ouvert à tous et qui est en plus gratuit au niveau de l'entrée, où les enfants peuvent s'amuser tout au long du week-end à découvrir des animations un petit peu en tout genre.
Et vous attendez combien de visiteurs le week-end du 4 au 6 juillet ?
Alors, si on se base sur les chiffres historiques, 2019 avait été une année mitigée avec de la pluie, mais on était reparti après Covid en 23 avec plus de 10 000 visiteurs et l'année dernière, près de 20 000. On va pas se mentir, ça c'est toujours un petit peu le temps qui va nous aider ou pas, mais effectivement, 20 000 visiteurs, c'est en général l'affluence d'un bon festival quand les conditions météo sont là. Et cette année, on a vraiment une très belle programmation. Donc ça, c'est mon job. Je le dis pas seulement pour cette raison-là. On a vraiment des nouveautés et des choses qui vont amener un petit côté drôle et culturel à la fois au festival. Et on a de très belles têtes d'affiche avec des gens qui viennent de Nouméa et avec des gens qui viennent d'Adélaïde. On a personne de Sydney Melbourne cette année, mais bon, chaque année, on essaye de faire venir des gens différents et de varier un petit peu aussi la programmation.
Et j'imagine que vous avez organisé les mêmes événements comme chaque année, les masterclasses, le Kids Corner, la scène musicale, le bar et tout ça?
Exactement. Donc, je disais tout à l'heure, le Kids Corner est toujours là et je pense que c'est un incontournable du festival. On a une chance depuis 10 ans et c'est un autre événement dans l'événement cette année. C'est les 10 ans de notre mascotte, Maurice. Maurice est un bulldog français qui a été dessiné par notre graphiste Olivier il y a 10 ans, qu'on a fait vivre de manière réelle avec cette mascotte qu'on a fait fabriquer il y a 10 ans également. Donc Maurice va être un petit peu le roi de la fête au niveau du Kids Corner, donc ça pour les enfants à ne pas rater, avec des birthday parties et des choses comme ça. Et puis effectivement les masterclass que je dois pas oublier non plus, qui font partie de nos animations, avec comme chaque année des dégustations de vin, de fromage, avec des cours sur le French etiquette, comme on dit, tout ce qui est règles du bon vivre, du savoir dresser le couvert, etc., accueillir ses invités. Et je vais quand même parler de cet aspect-là des animations. On a vraiment cette année une nouveauté sur le fait qu'on... J'ai commencé à penser ce festival du point de vue animation il y a quelques mois déjà en arrière, et c'est pour ça que Betty, la présidente, m'a un petit peu confié le rôle, parce que j'avais beaucoup d'idées qui fourmillaient dans la tête. Et je me suis inspiré de nos fêtes de village qu'on retrouve en France encore aujourd'hui, pour les 14 juillet notamment. Et cette année, on va amener des animations. Donc, je vais donner des noms et quelques tips, mais je vais pas tout dévoiler là. Mais on amène la crêpe partie, donc qui est un concours de lancer de crêpes. Je n'en dirai pas plus. On a le Chantilly Battle, qui va être un concours de crème chantilly également. On va avoir un jeu de lancer d'espadrilles, comme dans le Pays Basque, donc grande tradition du Pays Basque. On a également un petit concours de dressage de couverts où on aura la chance d'accueillir une personnalité qui est experte en la matière. Et puis le dernier, c'est un concours de ouverture de bouteilles de vin, tout simplement parce qu'en France, vous le savez, nos bouteilles de vin sont bouchonnées. Enfin, bouchonnées, c'est du bon vin, hein, mais on a des bouchons pour les fermer. Et donc, on va s'amuser à faire participer le public cette année avec ces animations pour le petit côté fête de village.
Et d'après ce que je comprends, il y aura aussi un défilé de vintage cars.
Alors voilà, le défilé, c'est toujours très compliqué de faire défiler les voitures parce qu'il y a beaucoup de monde et qu'on nous demande qu'elles bougent pas. Mais oui, on a en tout cas une exposition de voitures anciennes, des Peugeot, des Citroën, des Renault. On a la chance d'avoir dans le Queensland un club de passionnés de voitures anciennes. Et chaque année, ou en tout cas presque chaque année, on a la chance d'avoir des voitures sur le site. Et j'oublie un petit détail au niveau de l'animation. Le samedi soir, toujours pour rester dans cette veine du 14 juillet, j'ai baptisé ça le bal populaire. Et on va essayer d'avoir une soirée vraiment dédiée à la danse, avec quelques démonstrations, quelques cours de danse, et puis bien sûr un groupe, un orchestre qui va jouer, suivi d'un DJ pour vraiment animer et faire danser tout le monde.
Et le samedi et le dimanche, vous allez commencer à quelle heure? Le matin, très tôt?
Alors, c'est 8h le matin, oui, ça on est obligé de le faire un petit peu à l'australienne, on essaye d'accueillir tout le monde dès 8h, le samedi jusqu'à 10h, donc c'est une grande journée, une journée complète, et le dimanche on s'arrête à 5h parce que le lendemain c'est pour retourner travailler, et puis nous, il faut qu'on range un petit peu le site quand même. On a la chance d'avoir une grosse trentaine de bénévoles dans le comité d'organisation. On va avoir près de 300 volontaires additionnels pendant le week-end, donc c'est quand même une grosse machine. Mais ça fait quand même une semaine d'installation, donc tout ça, on va le replier, on va tenter de le replier en une soirée.
Et l'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, c'est ça?
Tout à fait. Donc on a une entrée qui est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Les adultes, évidemment, c'est une entrée payante. On a encore un early bird qui se déroule jusqu'au 29 juin et je pense qu'il faut vraiment en profiter. On essaye chaque année de garder nos tarifs raisonnables, mais tout coûte cher et tout augmente. Donc, il faut vraiment profiter de l'early bird. Le tarif à la porte va être un petit peu plus cher et il faut vraiment que les familles qui veulent venir se positionnent sur le prix du early bird pour bénéficier des meilleurs tarifs.
Ghislain, un dernier message pour encourager les gens à se déplacer et venir à South Banks Parklands.
Alors oui, donc vraiment cette année, tous ceux qui ont déjà vécu le festival, on a essayé, on a vraiment travaillé dur à inventer de nouvelles choses, à amener de nouvelles animations. Donc je vous invite vraiment à venir les découvrir. Si vous n'êtes jamais venu au festival, eh ben venez passer 24 heures en France, parce que c'est vraiment comme ça qu'on essaye de penser notre événement. Et puis je vais lancer un petit appel aux amateurs de musique, parce que vous êtes une radio et vous passez de la musique toute la journée. On a aussi cette année un concours de karaoké. Donc on va lancer là, les inscriptions en ligne. N'hésitez pas à vous inscrire si vous aimez chanter, même sous la douche. On accueille tout le monde et le but, c'est encore une fois de s'amuser, de passer un bon moment tout ensemble.
Et donc, tous les renseignements sur le site du festival.
Tout à fait. Le site et les réseaux sociaux, vous allez pouvoir suivre au plus près l'actualité du festival, parce qu'il y a des nouveautés et il y a des choses qui sortent tous les jours.
Merci à vous et bon festival.
Merci, c'est très gentil et merci à vous.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et en fin d'émission, on passe à un rappel des titres de ce jeudi. Les processus actuels concernant le travail avec les enfants font partie des politiques en cours de révision, alors que les gouvernements des États et le gouvernement fédéral accélèrent les réformes du secteur de la garde d'enfants après l'arrestation d'un travailleur de la petite enfance accusé de 70 infractions présumées liées à des agressions sexuelles sur des enfants. Les clients de Qantas sont invités à rester vigilants suite à l'une des pires cyberattaques depuis des mois. Les données d'environ 6 millions de clients ont été divulguées suite à un incident informatique sur une plateforme tierce utilisée par la compagnie aérienne. Les informations divulguées comprendraient les noms, numéros de téléphone, date de naissance et adresse e-mail. Des milliers de personnes sont toujours privées d'électricité sur la côte est de l'Australie après qu'un violent système de météo a déraciné des arbres et a mené à l'érosion des plages. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous le week-end, samedi et dimanche à 13h. Belle journée. À bientôt. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur Facebook.com/SBS French.